Oscar Wilde, Le pêcheur et son âme. Tous les soirs, le jeune pêcheur partait en mer et jetait ses filets à l'eau. Lorsque le vent soufflait de terre, il ne prenait rien, ou du moins ne prenait pas grand-chose, car c'était là un vent âpre aux ailes noires, et de rudes vagues se dressaient pour lui tenir tête. Mais quand le vent soufflait vers la côte, le poisson montait des profondeurs, allait se perdre dans les mailles de ses filets, et il le portait au marché et le vendait. Tous les soirs, il partait en mer. Un soir, le filet fut si lourd qu'il ne put qu'à grand-peine le tirer dans le bateau. Et il rit et se dit à part lui, « Oh, sûrement j'ai pris tout le poisson qui nage, j'ai capturé quelque monstre pesant qui sera un sujet d'étonnement pour les gens, ou quelque chose d'horrible que la grande reine convoitera. » Et redoublant d'efforts, il hala sur les câbles grossiers, tant qu'à la fin, semblables à des filets d'émail bleu autour d'un vase de bronze, ses longues veines firent saillir sur ses bras. Il tira sur les cordes minces, le cercle de liège plat se rapprocha d'instant en instant, et enfin le filet parut à la surface de l'eau. Mais il ne contenait point de poisson, point de monstre, point de créature horrible, rien qu'une petite sirène profondément endormie. Sa chevelure était une humide toison d'or. Chacun des cheveux en particulier pour toujours, et c'est là son châtiment, c'est là sa récompense. Et le jeune pêcheur pâlit et serra les poings et cria « C'était une sorcière trompeuse, puisqu'il ne m'a rien dit de cela. » « Non, répondit son âme, elle fut loyale envers celui qu'elle servait, et dont elle sera toujours la servante. » Et lorsque le jeune pêcheur sut qu'il ne pouvait se délivrer de son âme, que c'était une âme mauvaise et qu'elle habiterait toujours en lui, il tomba sur le sol et pleura amèrement. Et le jour venu, le jeune pêcheur se releva et dit à son âme, « Je me lierai les mains afin de ne point obéir à tes ordres. Je fermerai mes lèvres pour ne point prononcer tes paroles, et je retournerai à l'endroit où habite celle que j'aime. Je retournerai à la mer même et à la petite baie où elle a coutume de chanter. Je l'appellerai, je lui apprendrai le mal que j'ai fait et le mal que tu as opéré en moi. » Et son âme le tenta en lui disant, « Mais quel est-il l'objet de ton amour pour que tu songes à retourner près d'elle? Le monde en contient bien d'autres qui sont plus belles. Il y a des danseuses de Samaris qui dansent à la façon de toutes les sortes d'oiseaux et de bêtes. Elles ont les pieds peints ou ennés, et elles ont aux mains de petites clochettes de cuivre. Elles rient en dansant, et leur rire est aussi clair que le rire de l'eau. Viens avec moi, je te les montrerai. Car qu'est-ce donc que ce trouble que tu éprouves au sujet des choses coupables? Ce qui est agréable à manger n'est-il point fait pour le mangeur? Y a-t-il du poison dans ce qui est doux à boire? Ne te trouble pas, viens avec moi dans une autre ville. Il y a tout près d'ici une petite ville où se trouve un jardin de tulipiers. Et dans ce jardin charmant habitent des paons blancs et des paons qui ont la gorge bleue. Leurs queues, lorsqu'ils les étoilent au soleil, sont semblables à des disques d'ivoire et à des disques dorés. Et celle qui les nourrit danse pour leur plaisir. Et tantôt elle danse sur les mains, et tantôt elle danse sur les pieds. Elle a les yeux colorés avec du subium, et ses narines ont la forme de l'aile de l'hirondelle. À un crochet, fixé dans une de ses narines, est suspendue une fleur taillée dans une perle. Elle rit en dansant, et les anneaux d'argent qui entourent ses chevilles tintent comme des cloches d'argent. Ainsi donc ne te tourmente plus, mais viens avec moi dans cette ville. » Mais le jeune pêcheur ne répondit point à son âme. Il ferma ses lèvres du sceau du silence, et avec une corde serrée, il lia les mains et revint à l'endroit où il était parti, et à la petite baie où celle qu'il aimait avait coutume de chanter. Et chemin faisant, son âme cessa de le tenter, mais il ne répondit pas. Il se refusait à accomplir les méchancetés qu'elle cherchait à lui faire commettre, si grande était la force de l'amour qu'il y avait en lui. Et lorsqu'il fut parvenu au rivage de la mer, il délia la corde de ses mains, il ôta de ses lèvres le sceau de silence et appela la petite sirène. Mais elle ne vint point à son appel, bien qu'il ne cessât de la supplier tout le long du jour. Et son âme le raillait en ces termes. « Sûrement, ton amour ne t'apporte guère de joie. Tu es comme celui qui, en temps de sécheresse, verse de l'eau dans un vase brisé. Tu gaspilles ce que tu as, et on ne te donne rien en retour. Mieux vaudrait que tu viennes avec moi, car je sais où se trouve la vallée du plaisir, et quelles sont les choses qui s'y passent. » Mais le jeune pêcheur ne répondit pas à son âme. Il se bâtit une hutte de roseaux dans une fente de rocher et y habita pendant un an. Et chaque matin, il appelait la sirène, et chaque midi, il appelait encore, et chaque soir, il prononçait son nom. Mais elle ne surgissait jamais de l'eau pour aller au-devant de lui. Il ne l'apercevait jamais dans aucun endroit de la mer, bien qu'il la cherchât dans les cavernes, et dans l'eau verte, et dans les mares que laisse la marée, et dans les creux qui se trouvent au fond de l'abîme. Et sans cesse, son âme l'assaillait de tentations nouvelles, et lui murmurait des choses terribles. Mais elle ne se rendait pas maîtresse de lui, tant était grand le pouvoir de son amour. Et l'année achevée, l'âme se dit en elle-même, j'ai tenté mon maître par le mal, et son amour est plus fort que moi. Maintenant, je vais le tenter par le bien. Il pourra se faire qu'il vienne avec moi. » Ainsi donc, elle parla en ces termes au jeune pêcheur. « Je t'ai parlé de la joie de ce monde, et tu as fait la sourde oreille. Permets que je te parle maintenant de la souffrance de ce monde, et peut-être m'écouteras-tu. » Car s'il est une vérité, c'est que la souffrance est la maîtresse de ce monde, et il n'est personne qui échappe à son filet. À certains, c'est le vêtement qui manque, à d'autres, c'est le pain. Il y a des veuves qui siègent dans la pourpre, il y a des veuves qui gisent dans les haillons. Ça et là, par les landes, errent les lépreux, et ils sont cruels entre eux. Les mendiants vont et viennent sur les grandes routes, et leurs sacs sont vides. Par les rues des villes se promène la famine et la peste est assise à leur poste. Allons, viens, tâchons de remédier à ces choses, et faire qu'elles ne soient pas. À quoi bon rester ici, en appelant celle que tu aimes, alors qu'elle ne veut pas répondre à ton appel? Et l'amour, qu'est-il pour que tu y attaches ainsi au prix? Mais le jeune pêcheur ne répondit rien, tant était grande la force de son amour. Et chaque matin, il appelait la sirène, chaque midi, il l'appelait encore, et la nuit venant, il prononçait son nom. Mais elle ne surgissait jamais de la mer pour aller au-devant de lui, bien qu'il la cherchât dans les fleuves de la mer, dans les vallées qui existent sous les vagues, dans la mer que la nuit empourpre, et dans la mer que l'aube laisse grise. Et la seconde année passée, l'âme parla pendant la nuit au jeune pêcheur, comme il était assis tout seul dans sa hutte roseau. « Voici que je t'ai tenté par le mal et que je t'ai tenté par le bien, et ton amour est plus fort que moi. Ainsi donc je cesserai de te tenter, mais je t'en prie, laisse-moi entrer dans ton cœur, afin que je ne fasse qu'un avec toi, comme autrefois. Certes, tu peux entrer, dit le jeune pêcheur, car le temps où, dépourvu de cœur, tu errais par le monde, tu as dû souffrir. Hélas, s'écria son âme, je ne peux trouver d'entrée, tant d'amour tient de place dans ton cœur. Pourtant, je voudrais pouvoir t'aider, dit le jeune pêcheur. Et comme il parlait, un grand cri plaintif arriva de la mer. C'était ce même cri que les hommes entendent quand meurt quelqu'un du peuple de la mer. Le jeune pêcheur bondit et quitta sa maison de roseaux et descendit au rivage en courant. Et les vagues noires se hâtaient vers la côte, portant avec elles un fardeau plus blanc que l'argent. Il était blanc comme l'écume, et il était secoué comme une fleur sur les vagues. Et l'embrun le reçut des vagues, et l'écume le reçut de l'embrun, et le rivage l'accueillit. Et le jeune pêcheur vit, gisant à ses pieds, le cadavre de la petite sirène. À ses pieds gisait la morte, pleurant comme celui que la douleur frappe. Soudain, il se jeta à terre près d'elle et baisa le rouge front de ses lèvres et joua avec l'ambre humide de sa chevelure. Il se jeta sur le sable à côté d'elle, pleurant comme un homme qui tremble de joie, et il la serrait dans ses bras, brun contre sa poitrine. Ses lèvres étant glacées, pourtant il les baisa. Sale était le miel de sa chevelure, pourtant il y goûta une joie amère. Il baisa les paupières closes, et l'âpre écume qui emplissait leur orbite était moins salée que ses larmes. Et il se confessa à la chose morte. Dans les conques de ses oreilles, il versa le vin astringent de son récit. Il mit autour de son cou les petites mains, et il toucha de ses doigts le grêle larynx. Amère, amère était sa joie. Il y avait dans sa souffrance une singulière volupté. La noire mer se rapprochait, et la blanche écume gémissait comme un lépreux. La mer fouillait le rivage de ses blanches griffes d'écume. Le palais du roi de la mer monta une fois encore le cri de deuil, et les grands tritons lancèrent bien loin sur la mer le son rauque de leur conque. « Fuis !» dit son âme, « car la mer ne cesse de se rapprocher, et si tu la tardes, elle te fera périr. Fuis donc, car j'ai peur en voyant que ton cœur en est fermé par la grandeur de ton amour. Fuis vers un endroit où tu sois en sûreté. Certes, tu ne vas pas me renvoyer dépourvu de cœur dans un autre monde. » Mais le jeune pêcheur n'écouta point son âme. Il appela la petite sirène et dit « L'amour est préférable à la sagesse, et plus précieux que la richesse, et plus beau que les pieds des filles des hommes. Les flammes ne sauraient le détruire, les eaux ne peuvent l'éteindre. Je t'appelais le matin, et tu ne vins pas à mon appel. La lune entendit ton nom, mais tu n'eus aucun souci de moi, car j'avais commis un crime en te quittant. Il m'en a coûté bien des mots quand je me suis éloigné. Et pourtant, ton amour n'a cessé d'habiter en moi. Il a toujours été très fort et rien n'a prévalu contre lui. Quoi que j'ai porté mes yeux sur le bien. Et maintenant que te voici morte, je mourrai aussi avec toi. » Et son âme le suppliait de partir, mais il ne voulut point. Si grand était son amour. Et la mer monta encore et cherchait à le couvrir sous ses vagues. Et quand il vit que la fin était proche, il baisa de ses lèvres ardentes les lèvres glacées de la sirène, et le cœur qui était au-dedans de lui se brisa. Et comme si la plénitude de son amour avait rompu son cœur, l'âme y trouva une entrée et s'y glissa. Il ne fit plus qu'un avec lui, comme autrefois. Et la mer couvrit sous ses vagues le jeune pêcheur. Et au matin, le prêtre sortit pour bénir la mer, car elle avait été agitée. Et avec lui vinrent les moines et les musiciens et les porteurs de cierges et ceux qui balançaient les encensoirs et un nombreux cortège. Et quand le prêtre fut au bord, il vit le jeune pêcheur qui gisait noyé dans l'écume, tenant serré entre ses bras le corps de la petite sirène. Et il recula en fronçant le sourcil, Puis ayant fait le signe de la croix, il cria à haute voix: Je ne veux point bénir la mer, ni rien de ce qui s'y trouve. Maudit soit le peuple de la mer, et maudit soient tous ceux qui ont des rapports avec lui. Et quant à celui-ci, qui par l'effet de son amour a renoncé Dieu, et qui gît avec sa courtisane, immolé par le jugement de Dieu, prenez son corps et celui de sa courtisane, et enterrez-les dans le coin du champ des poulons, et qu'on ne me mette sur eux aucune marque, aucun signe, de quelque sorte que ce soit, pour que nul ne connaisse l'endroit où ils reposent. Car ils furent maudits dans leur vie, et maudits doivent-ils être aussi dans leur mort. Et le peuple fit ce qui lui était commandé. Et dans le coin du champ des foulons, où ne croit aucune belle plante, on creusa une fosse profonde, où l'on mit ces choses mortes. Et au bout de la troisième année, un jour, qui était un saint jour, le prêtre monta à la chapelle pour montrer au peuple les blessures du Seigneur et lui parler de la colère divine. Et quand il se fut revêtu de ses ornements sacerdotaux, après être entré et s'être incliné devant l'autel, il vit l'autel couvert de fleurs étranges qui ne s'y étaient jamais vues jusqu'alors. Elles étaient d'étranges aspects et d'une beauté curieuse, et leur beauté le troubla, et leur odeur fut douce à ses narines. Et il se sentit content, sans comprendre pourquoi il était content. Et lorsqu'il eut ouvert le tabernacle, et encensé l'ostensoir qui y était refermé, et montré au peuple la blanche hostie, quand il eut ensuite caché derrière le voile des voiles, il se mit à parler au peuple dans l'intention de l'entretenir de la colère divine. Mais la beauté des blanches fleurs le troublait. Leur odeur montait à ses narines, et des paroles différentes vinrent à ses lèvres. Il ne parla point de la colère de Dieu, mais du Dieu dont le nom est Amour. Et pourquoi parlait-il ainsi? Il ne le sut pas. Et lorsqu'il eut fini de parler, le peuple pleura. Le prêtre retourna dans la sacristie, les yeux pleins de larmes. Les diacres vinrent et se mirent à lui ôter ses vêtements sacerdotaux. Ils lui enlevèrent l'aume et la ceinture, et le manipule et l'étole. Et il resta immobile comme dans un rêve. Et quand ils eurent ôté ses ornements, il les regarda et dit: Mais quelles sont ces fleurs qui se trouvent sur l'autel, et d'où viennent-elles? Et ils lui répondirent: Ce que sont ces fleurs, nous ne pouvons le dire, mais elles viennent du coin du champ des foulons. Et le prêtre trembla. Il retourna chez lui et pria, et le matin, alors que l'aube régnait encore, il sortit avec les moines et les musiciens et les porteurs de cierges et les porteurs d'encensoirs, et un cortège nombreux. Il se rendit au bord de la mer et il bénit la mer et toutes les créatures sauvages qu'elle renferme. Il bénit également des faunes et les petites créatures qui dansent dans les bois, et les créatures aux yeux brillants qui épient à travers le feuillage. Il bénit toutes les choses qui existent dans le monde de Dieu. Et le peuple fut plein de joie et d'admiration. Cependant, il ne poussa plus jamais de fleurs d'aucune sorte dans le coin du champ des foulons. Ce champ resta stérile, comme auparavant. Et le peuple de la mer cessa de venir dans la baie, comme il en avait l'habitude, car il s'en alla dans une autre région de la mer.